à fin décembre 2023. Plus d'informations sur caudalie.com.
France Inter,
première radio de France.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le flash, Timur Özturk.
Une alerte à la bombe en plein festival de Cannes. Le palais des festivals est confiné depuis une heure. Les entrées et sorties bloquées. Festivaliers et journalistes sont massés devant l'entrée de ce palais qui peut accueillir jusqu'à 2300 personnes. En Nouvelle-Calédonie, l'État discute avec un couteau sous la gorge en disant « Si vous ne discutez pas, je dégèle le corps électoral », dénonce Emmanuel Djibaou, fils de Jean-Marie Djibaou, figure de l'indépendantisme kanak assassiné en 89. C'est inévitable que cette violence institutionnelle se traduise par une violence sur le terrain, estime Emmanuel Djibaou. Aujourd'hui, un homme est mort tué par balle dans le nord du territoire calédonien. Il s'agit d'un caldoche. Il a été abattu dans une fusillade sur un barrage tenu par des indépendantistes kanaks. On déplore également deux blessés. En tout, 6 personnes sont mortes depuis le début des violences lundi. À un mois du scrutin, la tête de liste socialiste pour les élections européennes, Raphaël Glucksmann, en meeting à Perpignan aujourd'hui, ville tenue par le Rassemblement National. Il appelle à en faire la capitale de la résistance à l'extrême droite en Europe. Il faisait ce discours devant environ 200 à 300 personnes. Le suspect de la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque Robert Fico, placé en détention provisoire par un tribunal. L'homme de 71 ans est l'auteur présumé de 5 coups de feu contre le Premier ministre, dont 4 ont touché Robert Fico, toujours dans un état grave mais hors de danger. Sa santé s'améliore d'après ses médecins après une deuxième opération chirurgicale hier. L'étau se resserre sur la commune de Vovtchansk dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe annonce s'être emparée d'un nouveau village dans ce secteur de la région de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, où Moscou a lancé une offensive terrestre et progresse. Près de 10 000 Ukrainiens évacués de la ligne de front. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit redouter que ces opérations ne constituent qu'une première vague et que le Kremlin tente à terme de conquérir la ville de Kharkiv. Loin des tranchées, une guerre également économique. La justice russe ordonne la saisie de plus de 700 millions d'euros d'actifs de la banque italienne UniCredit et de la banque allemande Deutsche Bank en Russie. Requête d'une entreprise gazière russe. Son partenaire allemand a manqué à ses engagements de livraison après le début de l'offensive russe en Ukraine. UniCredit et Deutsche Bank étaient les banques garantes du projet. Elles n'ont pas rempli leurs obligations commerciales prévues par le contrat en raison des sanctions occidentales contre Moscou. 400 km de fortifications pour plus de 2 milliards d'euros. La Pologne va investir dans la sécurisation de sa frontière avec la Biélorussie et avec l'enclave russe de Kaliningrad, annonce le Premier ministre polonais Donald Tusk. Un projet nommé Bouclier Oriental, soutien de Kiev, Varsovie, craint d'être la prochaine cible de la Russie.
Ce samedi, Raphaël se confie dans la balade.
Ne partons pas fâchés.
17h, Vincent Jos.
Le chanteur de Caravane sort un 10e disque, peut-être le plus intime de tous, Une autre vie.
La balade.
Tous les samedis sur France Inter, à 17h.
Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, nous parle du numéro 1 de l'antitache en pharmacie.
Le sérum VinoPerfect corrige toutes les taches liées au soleil, aux cicatrices d'acné, aux masques de grossesse, à l'âge. C'est prouvé. La coloration des taches diminue de 63% des 1 flacon. Et sur tous les types de peau, des plus clairs aux plus foncés, même les peaux sensibles.
En ce moment, pour l'achat d'un sérum VinoPerfect Caudalie, la crème solaire SPF 50+, offerte. Dans la limite des stocks disponibles. Source Gers Data à fin décembre 2023. Plus d'informations sur caudalie.com.
France Inter, partenaire des Nuits de Fourvière. Festival international de la métropole de Lyon, du 30 mai au 25 juillet. Théâtre, danse, cirque et concerts. Parmi 60 spectacles, découvrez The Pulse par les acrobates de Gravity and Other Miss, Angélique Kidjo accompagnée par l'Orchestre National de Lyon, les pianistes Katia et Marielle Labec, mais aussi PJ Harvey, R et Zao de Sagazan. Les Nuits de Fourvière, un événement France Inter.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 16h04, tout de suite Zoom Zoom Zen avec Mathieu Noël.
Merci Timur Özturk, prochain rendez-vous avec l'actualité à 17h. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le best-of de Zoom Zoom Zen, un condensé d'une semaine en 60 minutes chrono, un pari fou, un pari fort, un saut dans le vide, et pourtant nous serons une fois de plus au rendez-vous. Ensemble on va décrypter ces mots, ces expressions qui flottent dans l'air du temps, une heure aussi pour se détendre tout en s'aérant joyeusement les neurones. À mes côtés, mes deux complices, Manon Mariani qui détecte les sujets qui montent sur les réseaux sociaux et qui nous les décortique, et Quentin lui pour son micro-trottoir complètement à la rue. Zoom Zoom Zen, format meilleur de nous-mêmes. C'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
La télé poubelle. Ah bah voilà. Je crois que c'est un synonyme de télé-réalité. Je trouve que la télé-réalité, bah ça apporte rien. C'est vraiment de l'abrutissement et c'est laisser de l'espace de vide au cerveau des gens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission qui décrypte notre époque sans jamais oublier d'en rire. Et cet après-midi, il y a matière à, même s'il y a aussi matière à en pleurer, zoom sur un phénomène qu'on a cru un moment enterré et qui est revenu en force, la télépoubelle. Nous sommes le 10 janvier 2011, Manon Mariani, qu'on n'appelle pas encore la Marianoche, car elle n'a pas encore la capacité d'ingurgiter 2 litres de gin tonic en 30 minutes. Elle vient tout juste d'avoir 20 ans et tourne encore au vodka Oasis Tropical, découvre le premier numéro d'un programme qui va devenir sa raison de vivre, sa bible, Les Anges de la télé-réalité. Émission qualitative produite par mon ami Jérémy Michalak, qui nous écoute depuis Los Angeles, où il coule une retraite paisible, retraite qu'il a donc prise à 42 ans, après avoir vendu les parts de sa boîte de prod. Souvent, je lui ai demandé s'il culpabilisait de rouler en Ferrari financée par l'argent de la télé-poubelle. Sa réponse...
Je suis le maître du monde.
Laisse à penser que non, il culpabilise pas trop, Jérém. Alors que s'est-il passé depuis l'irruption dans nos vies du loft en 2001? Il y a eu évidemment bien pire depuis, des anges au putassier Frenchy Shore que même Quentin a trouvé vulgaire, et pourtant on rappelle que Quentin c'est quand même celui qui peut chanter à une heure de grande écoute.
La bouillarde.
Alors que s'est-il passé? Pourquoi ce genre de la télépoubelle qui semblait refluer a l'air de repartir de plus belle? Pourquoi certains d'entre nous continuent d'aimer ça alors même qu'ils savent que c'est mal? La télépoubelle vit-elle ces dernières heures ou bien va-t-elle perdurer grâce à l'écho des réseaux sociaux qui s'en délectent? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Constance Villanova.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Constance, vous êtes journaliste, vous collaborez d'ailleurs à l'émission de l'immense Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, il faut le dire. Vous êtes une passionnée de télé-réalité, vous êtes d'ailleurs venue nous en parler déjà dans cette émission, et vous venez de sortir un livre, Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous, aux éditions J.C. Lattès. Alors Constance, vous allez nous expliquer évidemment ce paradoxe qui fait que des gens très bien, comme vous et Manon, aiment la télé-poubelle. Est-ce que la télé-réalité, c'est l'incarnation de la télépoubelle, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
C'est un peu plus compliqué que ça. La télépoubelle, elle est partout. Mmh. La télé-réalité, elle est aussi partout. Donc c'est très très compliqué. Mais oui, c'est ce qu'on associe à la télépoubelle. Pourquoi? Parce que c'est des programmes qui mettent en scène les classes populaires. Donc c'est aussi pour ça, par snobisme, qu'on a souvent assimilé télépoubelle et télé-réalité.
Face à vous, Constance, il va tâcher de s'accrocher pour suivre cet après-midi, même si pour lui, la télé s'est arrêtée au show de Mariti et Gilbert Carpentier.
Ah ouais, c'était bien.
Petit, belle époque. Petit, il rêvait d'ailleurs de devenir Chardin, de Stone et Chardin. La vie en a décidé autrement, puisqu'il est devenu responsable du PC sécurité de l'ambassade des États-Unis. Puis, allez savoir comment, magie du compte CPF, journaliste. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était plutôt Ringo, de Ringo et Sheila, ouais.
Très bien.
Le gondole à Venise, c'est plutôt ça.
Ça ne vous rajeunit pas non plus,
non.
Mais c'est bien de
mais
le
savoir. Mais ça fait chou,
c'est bien de le préciser. Alors Cyril, même si vous avez su rester totalement hermétique au ravage de la télé-réalité, à l'exception de la vidéo de Loana dans le jacuzzi que vous avez quand même conservé en VHS, car je vous cite, les nuits d'hiver sont longues à Potocombo.
Oh oui.
Racontez-nous la télé-poubelle, d'où ça sort.
Ils sont en train de rire comme des animaux. Alors, on pourra toujours ergoter pour savoir qui est le tout premier des tout premiers. À mes yeux, il n'y a qu'un créateur à la télé-poubelle, et c'est lui. Jerry Springer, et c'est un des génériques de son émission qu'on entend, The Jerry Springer Show, s'est lancé en 1991, 27 saisons au compteur, arrêté en 2018, 5 ans avant la mort de son emblématique présentateur. Jerry Springer, c'est l'inventeur de l'émission de témoignage, mais en mode sale, très, très sale. C'est un précurseur de C'est mon choix, l'émission d'Evelyne Thomas, mais sans limite, sans tabou, et toujours plus loin dans la provoque. J'ai lu dans Télérama qu'à la grande époque de cette émission, il y avait 4000 personnes qui se présentaient chaque semaine pour venir témoigner dans cette émission.
Vous lisez Télérama, et ça c'est un bon point pour vous, Cyril. Et en France, alors?
Ne zappez pas!
Et c'était lui, notre Jerry Springer, Jean-Marc Morandini, la grande époque de TF1, l'époque bien cracra. Du cul, disait la marionnette d'Étienne Moujotte dans Les Guignols. Moujotte, c'était le numéro 2 de TF1. C'est à lui et à son président, Patrick Lelay, qu'on doit l'irruption de la télé poubelle en France. Et entre 1993 et 1997, Tout est possible va faire figure d'emblème immortel. Morandini a résumé son émission avec ces mots, du cul, de l'angoisse, des larmes. Sacré tiercé. C'était 13 ans avant l'arrivée de Touche pas à mon poste, et encore à l'époque c'était une émission sérieuse sur France 4. C'était 15 ans avant la naissance des Marseillais, 26 ans avant la diffusion de l'ignoble Frenchy Shore produit par Arthur. Bref, voilà d'où ça sort, qu'elle dit. Mais je ne sais pas où tout ça va, et c'est tout le problème. Jusqu'où la télé poubelle peut s'enfoncer? Les réseaux sociaux encouragent-ils le toujours plus sale et plus vulgaire? La télé-réalité est-elle forcément sale et vulgaire? Justement, faut-il la censurer, la bannir même des écrans de télé? Pourquoi certains l'aiment tant, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Constance Villanova, est-ce que vous faites un lien, vous aussi, entre ces prémices de la télé-poubelle version américaine avec Jerry Springer et version française avec Jean-Marc Morandini, et plus près de nous, cette émission trash dont on vient d'évoquer, Manon a fait Frenchy Shore, qui a été diffusée cet automne sur la
plateforme Paramount Plus. Moi aussi.
C'est vrai que quand vous dites j'ai adoré, vous êtes au second degré ou vous avez adoré?
Non, j'ai adoré les deux premiers épisodes et j'ai apprécié le concept.
Il n'y a pas de concept.
C'est des gens très vulgaires dans une maison. C'est une télé-réalité qui est moins scriptée, qui change. D'accord. C'est une tentative de renouveau. Après, est-ce que j'ai apprécié regarder? Pas forcément. Est-ce que j'ai fermé les yeux beaucoup de fois? Oui. Voilà. Mais pour revenir à votre première question, oui, de toutes les façons, les émissions de témoignages, en général, c'est les premières à avoir mis des gens banals à l'écran. Et ces émissions dont vous parlez ont créé un jeu surdimensionné et ont mis au centre de leur dispositif le clash, la dispute. Donc oui, évidemment, les émissions de télé-réalité ont puisé dans ce format-là, et Frenchy Shore tout particulièrement.
Et alors, ce Frenchy Shore, alors, on en a beaucoup parlé au début. Il y a beaucoup de tapage médiatique. On n'a pas les audiences, je crois, de ce programme.
Non, parce que c'est une plateforme, et c'est surtout une émission qui devait accompagner le lancement d'une plateforme qui est Paramount Plus. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que...
Ils ont réussi leur coup ou pas?
Selon moi, oui, puisque à partir du moment où ça remonte jusqu'au ministère de la Culture et que le terme Frenchy Shore est dit au ministère de la Culture, c'est que voilà, ils ont réussi leur pari. Le but de la télé-réalité, avant tout, c'est de faire scandale. Frenchy Shore a fait scandale, donc en ce sens, Frenchy Shore a réussi à gagner son coup.
Pourquoi est-ce que nous sommes tant attirés par le pire de la télé? Est-ce que nous rêvons tous secrètement de faire partie du casting des Marseillais à Cancun? Qu'est-ce que la télé-réalité dit de nous? On continue d'en parler avec la journaliste Constance Villanova, juste après une pause musicale comme on les aime. Miles Kane, Loaded sur Inter.
Zen sur France Inter.
On n'en a visiblement pas fini avec la télé-poubelle. On en parle cet après-midi avec l'autrice de Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous aux éditions J.C. Lattès, Constance Villanova. Cette télé-poubelle, elle énerve, mais elle passionne aussi, indéniablement. D'ailleurs, vous racontez dans ce livre que le public est tout de suite au rendez-vous quand Love Story commence en 2001. Même Libé chronique quotidiennement ce qui se passe dans le loft. Comment vous la décryptez, cette passion, finalement, qui contamine tout le monde ?
Pour le loft ou pour la télé-réalité en général ?
Alors, pour le loft d'abord, et puis pour toi, ensuite.
Le loft, parce que c'était complètement inédit. Surtout, les TF1 et M6 s'étaient promis de ne jamais...
Mais oui, c'est ça.
Ouais, de ne jamais diffuser Big Brother, hein, parce que c'est une adaptation, on le rappelle, dans Demol. Et donc, ça fascine tout de suite. Mais ça fascine pourquoi ? Parce que c'est regardé comme un objet exotique. Libé, vous l'avez dit, a même une chronique quotidienne. David Dufresne, qui maintenant est spécialiste des violences policières, avait sa chronique sur le loft. Tous les médias, l'inédito confondu s'y mettent, le Figaro en parle, c'est un vrai fait de société. Et ça fascine parce que c'est du jamais vu. On n'a jamais vu 15 jeunes enfermés dans une baraque filmés 24 heures sur 24. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois ce raz-de-marée passé, les médias vont arrêter de s'y intéresser à la télé-réalité. Il y a eu le loft, et puis pendant 20 ans, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Alors que ça fait 20 ans que tous les jours, à l'heure du goûter, il y a une télé-réalité. Alors plus d'enfermement, maintenant on parle de vie collective, parce que ces bandes de jeunes sortent, ils vont en boîte, ils vont faire du paddle et du jet ski. Donc c'est des télé-réalités de vie collective ou même des séries réalités. Et il y a un silence médiatique assez hallucinant qui s'est fait autour de cette culture de masse.
Ça s'est clairement banalisé, la télé-réalité. Néanmoins, est-ce que, si on revient à l'époque du loft, des débuts de la télé-réalité en France en tout cas, quand le PDG d'Arte France à l'époque parlait d'un fascisme rampant, est-ce que c'est une expression qui est complètement obsolète aujourd'hui ? On se dit qu'il a loupé le coche ou il y avait quand même, on peut comprendre cette réaction à l'époque ?
Rien que le nom de l'émission qui s'appelle Big Brother initialement, Loft s'appelle Loft, mais c'est adapté de Big Brother, qui rappelle 1984 d'Orwell, oui, fait penser à du fascisme rampant. Et puis à ce côté, filmé 24 heures sur 24, le droit à l'image aussi qui est très questionné, donc ça fait peur. Mais je pense que l'expression était un peu poussive.
Regarder de la télé-réalité, c'est mal vu, mais parler en tant que journaliste de télé-réalité, c'est pas très bien vu non plus. Vous dites que vous avez dû jouer des coudes pour l'imposer dans l'espace médiatique, ce thème, cette analyse de la télé-réalité que vous faites dans le livre, parce qu'on a presque pas envie, c'est presque vulgaire, trivial, on n'a pas envie de s'intéresser à ça.
Oui, les médias s'y sont pas intéressés pendant très longtemps par snobisme, je pense, par mépris de classe, et parce que ça relève de la télé-poubelle, donc on s'y intéresse pas forcément, et même moi quand j'ai commencé mes études en journalisme il y a 8 ans, j'ai eu un oral dans une école de journalisme, et quand on m'a demandé qu'est-ce que je regarde, ce que je regarde à la télé et qui me fait le plus honte, j'ai dit la télé-réalité, enfin j'ai dit les anges, parce que comme Manon, j'étais fan en fait, voire addict aux anges de la télé-réalité. La prof devant moi m'a dit tout de suite « Oui, vous devriez vraiment avoir honte ». Et quand j'ai proposé des sujets d'enquête sur les violences sexistes dont sont victimes les candidates, beaucoup de rédacteurs en chef avaient un petit sourire en coin parce qu'il y a toujours cette idée de « c'est des jeunes femmes issues de classe populaire, est-ce qu'elles ne méritent pas un peu ce qui leur arrive ?»
Oui. Et ça, vous sentez que le regard là-dessus a évolué ? Aujourd'hui, on s'intéresse sociologiquement à ce que dit la télé-réalité ?
On s'y intéresse parce qu'on n'a plus le choix, en fait. Et puis parce que la pop culture est devenue un sujet aussi d'étude et un sujet de débat. Les médias essayent d'être de moins en moins snobs. Les réseaux sociaux aussi ont ouvert le débat et ont donné de la visibilité à ces candidats de télé-réalité qui sont aussi influenceurs et qui ont des millions d'abonnés sur Instagram, donc qui ont de l'impact. Donc en fait, on peut plus mettre de hier, c'est surtout ça.
La télé-réalité, elle est quand même en train de changer. En France, il y a eu un renouveau. On voit que le retour de la Star Academy, le retour de Secret Story, sauf que c'est quand même des programmes beaucoup plus familiaux. Ça veut dire quoi ? C'est quoi votre avis sur ces nouveaux programmes ? Anciens, nouveaux ?
En fait, j'ai l'impression que pour Endemol, par exemple, qui est aux manettes de la Star Academy et de Secret Story, Endemol a envie de faire une télé-réalité bienveillante, familiale, et de construire une émission et des émissions à l'opposé total de ce qui a pu être fait pendant des années.
Et c'est pas antinomique ? Enfin, c'est pas ça évite pas le concept
non,
même de télé-réalité.
Non, parce qu'on peut faire. Enfin, leur pari, c'est de faire une télé-réalité sans clash, sans sexe.
Et ça intéresse quand même.
Et ça marche, ça marche. On l'a vu en tout cas avec la Star Academy, qui peut paraître un peu. Enfin, excusez-moi l'expression chiante pour certains, parce que il y a moins de disputes. On prend le temps en fait de regarder les choses. Il faut savoir que la télé-réalité qui a été faite depuis Les Anges, elle est très scriptée. Une demi-journée de tournage correspond à un épisode, donc il faut qu'il se passe énormément de choses. en fait. Donc les candidats vont être poussés à créer de la séquence, à créer de l'image, à créer des couples, à se disputer, à créer du clash.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui leur disent tu diras ça ou les lancent sur des sujets de conversation.
Qui vont les guider, les guider du moins. Et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de ça. Et c'est amusant quand on regarde la nouvelle mouture de Secret Story, bah parfois on s'ennuie à regarder 15 jeunes enfermés dans une maison à parler autour d'une piscine.
Chaque jour, son réveil sonne à 10h30, ce qui est tôt, mais pas hyper tôt non plus.
Désolé de ne pas avoir choisi de me lever à 10h30 et de faire chambre à part.
Hier soir, je lui ai dit qu'il faudrait que ça change la saison prochaine. Depuis, il encaisse le coup et profite de ses dernières journées de glande. Quentin, chaque jour, vous vous baladez tout en étant rémunéré pour ça,
oui,
dans les rues de la capitale.
C'est drôle.
Et vous faites réagir les passants à notre thème. Alors, que pensent les gens, justement, de la télépoubelle ?
Fin de matinée, nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris. Des lycéens sous leur capuche s'attroupent autour de mon micro France Inter. Bonjour.
Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Wassil.
Aurel.
Et moi, c'est Maceo.
La télé poubelle.
Télé qui serait un peu nulle.
Qu'est-ce qui est nul à la télé aujourd'hui ?
C'est news.
Tout ce qui est calomnie.
Voilà. BFM TV, moi j'ai les noms.
Tout ce qui est diffamation, tout ce qui est... Diffamation.
Diffamation, au cas où on n'aurait pas compris. Bon, ça peut rentrer dans la télé poubelle, mais c'est pas moi qui l'ai dit. La rue parle, Mathieu, moi j'enregistre, mais la télé-réalité, on en fait quoi ?
On la met à la poubelle. Télé-réalité, c'est du superficiel. Parce que ça abrutit les jeunes d'aujourd'hui.
C'est vrai. Non, moi, je pense que c'est à regarder comme du divertissement. D'un œil de loisir.
Bah non, bah regarde. Par exemple, ton petit frère peut être influencé par la télé-réalité. Et t'as tout la plus grosse stupidité de la planète dans la télé-réalité.
Faut savoir faire la part des choses.
Ça part en débat trottoir.
Exactement. Voilà, faut s'extirper.
S'extirper et savoir faire la différence. Une de leurs amies s'approche. Est-ce qu'elle regarde des émissions de télé-réalité ?
Ouais. Moi, j'ai regardé tout ce qui est marseillais. Ouais. Vu que j'ai 13 ans, jusqu'à maintenant, je regarde The Power. Et franchement, c'est au top, cette émission. Elle est trop bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'embrouille. En fait, c'est vraiment naturel et c'est vraiment du jeu.
Est-ce que tu peux me dire foncièrement pourquoi tu regardes ça ?
Regarder la télévision. Parce que maintenant, il n'y a plus rien à la télévision, donc c'est plutôt plus pour regarder la télévision.
Et si la télé-réalité était l'une des dernières offres pour ceux qui ne sont plus des enfants, mais qui ne sont pas encore des adultes, elle nomme The Power, une nouvelle télé-réalité sur W9, mêlant stratégie, coup bas et alliance pour garder le pouvoir. Au moment où je salue cette joyeuse troupe, Ulysse m'attend en me souriant, pourquoi ?
J'ai entendu télé-réalité, alors la télé-poubelle, c'est un synonyme de télé-réalité.
Pourquoi ?
Ça apporte rien, c'est vraiment de l'abrutissement et c'est laisser de l'espace de vide au cerveau des gens.
Je lui parle de la mise en scène, de ce que les productions racontent à travers des candidats qu'on transforme en personnages.
C'est vraiment des scénarios très sexistes qui met la femme plus comme un objet de convoitise. Bon, c'est pas très flatteur pour l'homme non plus parce qu'ils sont pas présentés comme des lumières, mais ça, apparemment ça touche un public, donc ça pose des questions sur la société. Qui regarde ce genre de show ? À quoi ça sert de regarder la télé-réalité ? Est-ce que c'est pour se vider la tête ?
Est-ce qu'il n'y a pas un côté voyeuriste ?
Je crois qu'au fond de chaque humain, on a un petit côté voyeuriste. Les voisins s'intéressent toujours à ce qui se passe de l'autre côté du mur, donc en soi, mais ça n'a pas besoin pour autant de se baser sur des scénarios un peu débile, disons-le comme c'est.
Débile, mais qui ont une influence. Clara et sa copine sortent d'un magasin avec un sac blanc. Je leur fais lire l'article du Monde qui concerne notre invitée, Constance Villanova. Elle réagit.
La télé-réalité, pour moi, c'est un peu une sorte de mise en abîme de ce qui se passe de toute façon dans la réalité. Des modèles de genre qui se reproduisent. Donc ouais, c'est des scénarios, mais c'est des scénarios qui visent à perpétuer le modèle qu'on a déjà dans la société. Et ça, c'est pas ouf. D'où les violences faites aux femmes, d'où la misogynie en toute décontraction. Ouais, elle fait la meuf, elle fait un peu la bip. Et puis même, c'est aussi la volonté de se mettre en scène comme ça.
Allez, ma dernière rencontre, c'est Oscar et ses potes. Des garçons en polo, propres sur eux, visiblement de bonne famille.
Bonjour. On vient de passer notre baccalauréat, parce qu'on est dans une école internationale. Là, on était au McDo, on a mangé. On se détend.
La télé poubelle.
Anges, les anges, les Marseillais.
Ils identifient tout de suite, mais est-ce qu'ils regardent ?
Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que, premièrement, ça permet de nous enrichir d'un point de vue culturel en regardant des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes us et coutumes que nous. D'un point de vue aussi comique, parce qu'il y a certaines scènes assez cultes, je trouve. Scènes cultes avec Nabila.
Toi, tu prends ça presque comme de la sociologie.
Ouais. Moi, je prendrais ça comme de la sociologie. Plus que la sociologie, je dirais même de la psychologie. En fait, je pense que la télé-réalité, c'est pas seulement de la télé-réalité, c'est de la réalité tout court. C'est le train de vie de certaines personnes. C'est leurs aventures, c'est leur train de vie amoureux. En fait, tout ça, ça nous permet de nous plonger dans la vie de certains personnages, comme à l'époque, on se plongeait dans la vie de certains certains personnages dans des romans, par exemple.
Je peux t'arrêter parce que...
Oui, bien sûr.
J'arrête Oscar, ouais, parce qu'il
est... hein.
Ah, était à deux doigts de me dire qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise situation. Son pote prend la parole et là encore, ça débat.
Je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'elle influence surtout la jeunesse qui la regarde, enfin en fait toutes les générations qui l'ont regardée, que ce soit depuis Love Story ou jusqu'à maintenant les Marseillais. Je trouve qu'on a quand même une énorme influence sur les personnes qui la regardent, la manière de s'exprimer, mais aussi la manière d'agir, de réagir. Je trouve qu'on dramatise beaucoup plus les choses. Donc oui, ça a un énorme impact de la manière d'agir et de s'exprimer, je pense.
Alors, véritable objet de divertissement ou émission de propagande qui se répercute sur notre société. En tout cas, le débat à la part belle lorsqu'on aborde avec vous dans la rue la télé-poubelle.
Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous, c'est le titre du livre de votre livre, Constance Villanova. La télé-réalité, on en parle cet après-midi, la télé-poubelle, c'est comme ça qu'on a appelé cette émission. On vient d'entendre ces réflexions, ces adolescents qui débattent, qui sont visiblement très lucides sur ce qu'on leur propose comme contenu finalement. L'essentiel des gens regarde la télé-réalité comme une fiction finalement, avec beaucoup de distance, presque du second degré.
Ça dépend, je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont se planquer derrière ce second degré ou cette distinction sociale aussi. De dire qui relève un peu du mépris, on l'entend. Ouais, hein, ouais. Je regarde des personnes qui ont des us et coutumes différents. Ouais. Oui, voilà. Et je pense qu'il faut pas oublier qu'on s'attache à ces personnages. Moi-même, je le dis dans ce livre qui est assez personnel aussi. Hein. Je me suis attachée aux candidats qui passent d'une émission à une autre. Je vais suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux. Je vais suivre leurs histoires d'amour particulièrement parce qu'il est beaucoup question d'histoires d'amour. Et donc, je pense que ça va au-delà du côté sociologique et qu'on se cache un peu derrière ça. Moi, je me cachais derrière cet argument au tout début de ma consommation. Mmh. Et puis, maintenant, je l'assume, je suis complètement accro.
Clara, qui nous parle des scénarios de télé-réalité qui reproduisent des schémas stéréotypés existants. Pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est pour aller vers une forme de facilité à comprendre une séquence de la télé?
Oui, parce que c'est facile, parce que à nouveau, étant donné que la télé-réalité a été un angle mort médiatique, on s'est pas emparé du sujet. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la télé-réalité qui est censée être, on l'a vu avec le Loft, en avance sur son temps, une révolution, en fait, propage des idées complètement réac, c'est-à-dire surtout quand il s'agit du couple. Quand on est en couple en télé-réalité, il faut se fiancer, se marier, faire des enfants, et en fait, chaque étape de ce couple hétérosexuel est une opportunité pour créer un nouveau produit, une nouvelle émission. Donc oui, ça permet en fait, en restant dans ces schémas très cadrés, très réactionnaires, ça permet de continuer à créer de l'image en permanence.
Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau type de télé-réalité justement un peu plus inclusif aujourd'hui avec l'arrivée des plateformes? Je pense à Netflix qui produit The Circle, Love is Blind. On n'est plus du tout sur des schémas comme Les Marseillais ou Les Anges.
Oui, Netflix propose des formats qui sont beaucoup plus inclusifs, qui sont beaucoup mieux produits aussi. Il faut savoir que c'est aussi une question de moyens. Hein.
Bien sûr.
Il y a beaucoup plus d'argent du côté de Netflix que du côté de W9. Et c'est vrai qu'on a l'impression que nous, on a été complètement hermétique. En tout cas, que la télé-réalité française a été complètement hermétique au mouvement MeToo. Et ça en a fait un objet vraiment quasi réac, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant.
Zoom Zoom Zen, le best-of se poursuit sur France Inter. Dans un instant, on va parler de démocratisation culturelle ou comment rendre la culture accessible à toutes et tous. Est-ce que c'est un simple slogan politique ou est-ce que vraiment on peut ouvrir les musées à tous les Français, surtout leur donner envie de les fréquenter? On répond à toutes ces questions. Le temps d'écouter Cigarettes After Sex, Terrano Blue.
Always will make it feel like you. arcade said they were the shortest ever. And the rest like holiday. The laugh on where she sang, dancing in a polka dot tub. And when you say you want it all,
Mathieu Noël sur France Inter.
Bonjour Jean-Michel Tobelem.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Jean-Michel, vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, enseignant à l'École du Louvre. Vous êtes aussi directeur de l'Institut d'études et de recherche Option Culture. Et vous êtes l'auteur de Politique et gestion de la culture, publié l'an dernier chez Armand Collin. Alors Jean-Michel, vous allez nous expliquer où on en est de cette fameuse démocratisation culturelle. Mais Jean-Michel Tobelem, affrontons d'emblée la question qui revient sans cesse concernant notre sujet du jour. La culture pour tous, est-ce que déjà c'est possible?
Alors, non seulement c'est possible, mais c'est déjà la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut préciser les termes du débat, parce que tout le monde a accès à la culture, où qu'il se trouve, ne serait-ce que par autrefois la radio, la télévision, aujourd'hui Internet, la tablette, le téléphone portable qui contient des milliards de contenus culturels. Donc c'est très difficile de dire que quiconque n'a pas accès à la culture, sauf s'il ne souhaite pas, bien entendu. Mais pour autant, pourquoi le débat reste valable? Parce qu'en fait, il faut préciser que de quoi on parle, et j'ai envie de parler plutôt des équipements publics.
Et oui.
Les théâtres, les bibliothèques,
et
les
là, musées. On n'est pas tous
pourquoi
logés là.
Non, bien pourquoi? Ben parce que c'est financé par la collectivité publique, donc c'est forcément un enjeu démocratique. Donc c'est un petit peu différent de la consommation personnelle qu'on peut avoir et que tout le monde quasiment peut avoir sur Terre.
On va y revenir évidemment durant cette heure. Face à vous, Jean-Michel, il est la tête pensante de cette émission.
De temps en temps.
Figure de proue du service public, solidaire de toutes les luttes. Hein, il a tenu à manifester son soutien inconditionnel à notre camarade Guillaume Meurice depuis la Chèvre d'Or, établissement doublement étoilé de la Côte d'Azur la semaine dernière. Alors Cyril, en PACA, ça soutient bien Meurice. Hein, je crois que Christian Estrosi s'est mis en grève de la faim.
Hein. Je l'ai croisé dans l'avion. Non, il n'est pas en grève.
Il va s'y mettre.
Vous y êtes allé en avion?
Mon Dieu. Mon Dieu. Il s'est trahi.
C'est un autre sujet.
C'est trahi, il faut y aller en Flixbus, mon vieux. Cyril, chaque après-midi, vous nous racontez les origines de notre mot du jour. Alors dites-nous, la démocratisation culturelle, d'où ça sort?
Eh bien, si j'en crois Anne Krebs et Nathalie Robatel, les deux co-autrices du livre « Démocratisation culturelle, l'intervention publique en débat » publié en 2008, la démocratisation culturelle remonte en fait à la Révolution française. Pour Krebs et Robatel, si le sujet émerge dès cette époque, c'est, je les cite, « au titre de l'émancipation du peuple par l'instruction et la culture » et de la légitimité de l'État à intervenir dans le domaine des arts. Mais c'est en fait beaucoup plus tard que cette notion va réellement se développer. À partir des années 60, on parle à ce moment-là d'animation socio-culturelle. C'est par elle que le pays va chercher à recréer du lien social dans une population encore marquée par la Seconde Guerre mondiale.
L'après-guerre, qui est d'ailleurs le moment où apparaissent
les MJC. Enfin, à l'époque, on leur donne un autre nom, République des Jeunes. C'est une association créée par André Philippe pour regrouper les mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Voilà ce que déclare ce mouvement à sa naissance. Nous voudrions qu'après quelques années, une maison d'école au moins dans chaque ville ou village soit devenue une maison de la culture, où les hommes ne cesseront plus d'aller, sûrs d'y trouver un cinéma, des spectacles, une bibliothèque, des journaux, des revues, des livres, de la joie et de la lumière. La toute première maison des jeunes sera celle de Vichy, parfait symbole contre le régime de Pétain. En janvier 1948, cette République des jeunes devient officiellement la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture. Bien après, les MJC, et pas franchement sur le même bord politique, c'est André Malraux qui parlera ensuite de démocratisation culturelle. Mais la vision du ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle n'est pas partagée par tous. Certains estiment qu'à ses yeux, il faut que tout le monde aille dans le même sens, une conception antinomique d'une véritable démocratie.
démocratisation culturelle. Alors, qu'est-ce que la véritable démocratisation culturelle? Comment embarquer tout un pays derrière un tel projet? Comment intéresser les jeunes à la culture? Et à quelle culture? Qu'est-ce que ça veut dire, la culture pour tous? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup Cyril. Jean-Michel Tobelem, on vient d'entendre que ça remonte donc à loin, cette volonté de démocratisation culturelle, même très loin, 1789, la Révolution. Vous partagez ce point de vue, l'émancipation du peuple, elle passe forcément par la culture, c'est indissociable d'une démocratie.
Alors, l'émancipation du peuple, elle parle par l'éducation, d'abord et avant tout. La culture, c'est une couche supplémentaire pour aider aussi les individus à s'épanouir, à trouver leur voie, à découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc c'est pas exactement de même nature. Après, est-ce que ça date de 89? On pourrait faire remonter si on veut, parce que finalement tout le mouvement des Lumières, le mouvement des philosophes, ça guide, ça va aussi dans le sens de rapprocher les individus des productions intellectuelles d'une manière ou d'une autre.
Et ça représentait quoi dans l'histoire ces fameuses MJC dans l'après-guerre?
Alors, les MJC, c'est un mouvement en effet qui a répondu à cet appétit pour l'éducation populaire, un terme qu'on emploie d'ailleurs pas tant que ça aujourd'hui, et qui ont été un petit peu marginalisés d'une certaine façon. Quand on pense politique culturelle, on ne pense pas nécessairement mouvement de jeunesse, en tous les cas aujourd'hui. Et c'est probablement d'ailleurs une des origines fondatrices des difficultés qu'on a aujourd'hui à faire accéder une partie notable de la population aux équipements culturels. Parce qu'on a choisi de séparer la culture de lieux de vie où pouvaient se retrouver des jeunes, notamment pratiquant diverses activités avec une place accordée notamment aux amateurs. Et donc il y a eu cette coupure, on y faisait allusion à l'instant, à l'époque d'André Malraux, de dire finalement on met à distance l'éducation populaire, on met à distance y compris les MJC au profit de ces maisons de la culture dont on a parlé et qui ont donné lieu aujourd'hui aux grands équipements culturels qui sont présents dans la plupart de nos villes.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
La démocratisation culturelle, et si cette fois c'était la bonne? Zoom sur ce concept avec vous, Jean-Michel Tobelem, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et auteur de « Politique et gestion de la culture » paru l'an dernier chez Armand Collin. Jean-Michel, lors de ses vœux au mois de janvier, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a rappelé sa volonté de rendre la culture accessible à tous, qu'on habite dans des quartiers populaires ou dans les zones rurales, autrement dit, donc pas seulement à ceux qui habitent dans les grandes villes. Sans juger de ses intentions, comment est-ce que vous expliquez que la culture ait disparu de certains territoires? On parle souvent des déserts médicaux. Est-ce qu'il y a des déserts médicaux? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui en 2024, des déserts culturels en France?
Non, c'est très difficile à dire. On est dans un pays qui est quand même maillé d'un très grand nombre d'institutions culturelles. Aujourd'hui, par exemple, l'intercommunalité fait qu'on peut avoir des politiques de lecture publique avec des bibliothèques, des écoles de musique, des enseignements artistiques. Alors, par définition, on comprend bien qu'un théâtre, par exemple, bah, il faut une certaine masse critique, il faut un certain nombre d'habitants minimum. Donc, je n'irais pas jusqu'à dire, ou alors il faudrait comparer avec d'autres pays, et je dirais qu'on est plutôt bien placé par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des progrès, mais disons, partons de ce qui existe déjà et faisons en sorte que davantage de Français profitent justement de cette offre existante, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
On parlait un peu hors antenne et vous me disiez, il ne suffit pas d'exposer les gens à l'art pour qu'ils adhèrent. Il y a toute une démarche à accomplir pour que les gens s'y intéressent.
Oui, parce qu'on a le sentiment que l'œuvre parle d'elle-même. On a des dizaines d'années de travaux sociologiques, sciences humaines pour montrer que ça marche pas de cette façon-là. Donc en fait, il y a deux façons. C'est soit c'est votre famille. Hein, je lisais un bouquin, là on dit bah, je suis allé à l'opéra de Marseille avec mes parents. Bah ça change tout. Parce que si vous êtes allé une fois à l'opéra dans votre vie, même si vous détestez l'opéra, vous n'avez pas peur. Vous savez ce que c'est. Vous avez vu qu'on vous a pas mangé. Et vous comprenez un petit peu les codes. Donc ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est l'éducation. C'est pour ça que le déterminant principal de capacité des gens à profiter de l'offre culturelle, c'est surtout leur niveau d'éducation. Et comme le niveau d'éducation a progressé dans notre pays, qu'on le veuille ou non, il y a quand même plus de chances que les Français profitent justement de cette offre dont nous parlions à l'instant.
Mais c'est aussi le fait, bon, on revient un peu à ça, mais le fait d'être citadin, l'air de rien, ça aide quand même. On n'est pas non plus sur un cliché de dire que c'est plus facile de se cultiver quand on habite à côté ou quand on est dans une grande ville aujourd'hui en France.
Assurément, parce qu'on n'a que quelques pas à faire pour tomber sur un théâtre, sur un musée, etc. Dans les zones rurales, effectivement, la difficulté, ce sont les mobilités. Le temps de déplacement, le fait de devoir prendre sa voiture, ça peut être compensé de cette manière par l'aspect de convivialité, de participation, de bénévolat, qui fait que finalement la culture se devient une fête. C'est un moment de retrouvailles, de rencontres entre les gens.
Au début de l'émission, j'ai essayé de l'évoquer, mais ma langue a fourché. C'est quoi la différence entre la démocratisation culturelle, qui était la première expression, et la démocratie culturelle ?
Bon, la démocratie culturelle, je suppose que ça voudrait dire, c'est pas une expression qui m'est très familière, que chacun d'entre nous a accès à la culture, ce qui me paraît relever d'une certaine évidence. Par contre, la démocratie culturelle, je pense qu'il faut, ça vaut la peine d'en parler, parce que il faut savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est que la démocratisation culturelle? Ça veut dire la réduction des écarts dans l'accès à la culture. Donc, comme c'est, on a dit tout à l'heure que tout le monde a accès à la culture, je pense qu'il faut mieux préciser en disant quand on a des équipements publics, et notamment c'est ça qui m'intéresse du point de vue de la politique publique, on a des équipements qui sont financés par les citoyens. Est-ce qu'on peut attester que la plupart de nos concitoyens accèdent facilement au théâtre, aux maisons d'opéra, aux musées, aux monuments, etc. La réalité montre que ça n'est pas le cas. Donc c'est obligatoirement, qu'on le veuille ou non, en démocratie, un problème de la politique publique de se dire, puisque les gens financent ces équipements, ça serait quand même pas mal qu'ils y accèdent.
Mais évidemment, mais est-ce que c'est un problème d'offre ou de demande? C'est-à-dire que les gens peuvent, quasiment n'importe où sur le territoire, aller dans un théâtre qui n'est pas trop loin, ou est-ce qu'ils n'ont pas envie ou pas l'idée?
Alors, pour avoir envie, pour avoir idée, il faut savoir de quoi on parle. Si on c'est très difficile d'aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, quelqu'un qui dirait « Ah non, la musique symphonique, c'est pas pour moi. Vous êtes sûr ?» Attendez, on va peut-être vous emmener déjà dans une salle de concert, une belle salle avec des musiciens, et puis on va vous faire entendre quelque chose de plutôt sympa. Et après, vous direz si vous aimez ou vous n'aimez pas. Et je pense que l'enjeu, c'est pas de forcer les gens, bien entendu. C'est de leur dire « On vous donne le choix. » Mais pour avoir le choix, il faut être informé.
Et elle est un peu comme Godot, il y a longtemps maintenant qu'on l'attend, mais ça y est, promis, elle arrive. On zoome aujourd'hui sur la fameuse démocratisation culturelle avec un spécialiste justement des politiques culturelles, Jean-Michel Tobelem. Vous dénoncez une tendance qu'on a tous remarqué des grands musées de région parisienne, l'augmentation des prix. En 2024, pour visiter le Louvre, il faut débourser en moyenne 15,50 €. C'est 3,50 € de plus qu'il y a 10 ans. Ça, c'est vraiment pas de nature à encourager la démocratisation culturelle.
Ah oui, surtout que c'est... On est surtout passé de 15 à 22.
C'est énorme.
Oui, 22 €, augmentation de 46%. Donc effectivement, c'est un peu préoccupant dans une période où le pouvoir d'achat, je ne sais pas si votre pouvoir d'achat a augmenté de 46%.
Ah, le mien, non, ça a clairement baissé.
Alors, vous avez mal négocié. Bon, donc, il est clair que ça ne va pas empêcher, si vous voulez, le tourisme international continuera, bien évidemment, de venir au Louvre, à Orsay et à Versailles. Par contre, ça pose un petit problème pour les gens qui vont aussi, probablement pour certains d'entre eux, venir au moins une fois dans leur vie. Mais on aura tous compris que le but de la politique culturelle, ce n'est pas d'aller une fois au Louvre, ou à Versailles, ou à Orsay, ou dans n'importe quelle autre institution culturelle. Le but, c'est de faire en sorte que ça rentre dans la vie des gens, que ça devienne une pratique normale. Et à ce tarif-là, effectivement, il ne faut pas être devin pour deviner que ça sera plutôt de l'ordre de l'exceptionnel. Et alors, vous parliez tout à l'heure, je ne sais pas si je peux révéler un secret, hors antenne de votre vie cachée à Londres.
Vous aviez découvert que,
effectivement, l'accès au musée se faisait de façon très intuitive,
c'était gratuit.
Vous aviez remarqué aussi qu'il pleuvait de temps en temps, et que quand il y a une petite averse, ce n'est pas mal d'aller voir un tableau dans une salle. Et puis, on va ajouter qu'il n'y a pas que les musées d'art, il y a le musée des sciences, le muséum d'histoire naturelle. Donc, ça change le rapport que les citoyens ont à la culture.
Qu'est-ce qui a changé le pass culture à tout ça? Quel bilan on peut faire du pass culture auprès des jeunes?
Alors, c'est assez rare, mais là, je vais peut-être citer la ministre de la Culture, parce que les critiques qu'on avait pu faire au pass culture ont été jugées infondées. Or, la ministre, quand elle est arrivée, elle a dit « ça marche pas ». C'est pas un outil de démocratisation. Donc, je vais pas être plus royaliste que le roi. Effectivement, on le savait avant, et maintenant, on a confirmation
que le
pass culture ne servira pas à démocratiser la culture, parce que c'est un outil, c'est un instrument, et l'instrument ne remplace pas la politique. Alors, je ferai une petite différence entre la part individuelle, qui n'a pas de pouvoir magique en elle-même d'amener les enfants vers des formes un peu plus complexes, un peu plus difficiles d'accès, comme le théâtre, la musique symphonique, l'opéra, etc. Et puis la part collective, effectivement, qui est gérée à l'intérieur des établissements scolaires, où là, les professeurs vont jouer leur rôle habituel d'intercession, de médiation, et ils vont emmener, ce qu'on disait tout à l'heure, les enfants au musée, au théâtre et au concert.
Manon.
On parle beaucoup des institutions culturelles, le fait de sortir, de se rendre quelque part, d'aller au musée, d'aller au cinéma. Vous parliez tout à l'heure des réseaux, moi je pense aussi aux plateformes de SVOD. Est-ce qu'elles aident quand même à participer à cette démocratisation de la culture quand même?
Probablement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas avoir d'illusions excessives sur le numérique. En fait, on voit bien à travers les enquêtes que le numérique reproduit des inégalités préexistantes. Donc, si je ne suis pas intéressé par la danse contemporaine, je ne vais pas devenir un adepte de la danse contemporaine sur Internet. Ce n'est pas vrai. Ou alors, je l'étais auparavant. Voilà. Donc, il n'y a pas de pouvoir à nouveau magique de l'outil. Le numérique, c'est ce qu'on veut bien en faire. Donc, il y a un grand enjeu numérique, c'est-à-dire de diffusion massive des contenus culturels auprès d'un maximum de nos concitoyens, et puis plus largement dans le monde, on est d'accord. Mais l'idée que un dispositif numérique va surmonter les obstacles, notamment de nature sociologique ou liée à l'éducation, ça, malheureusement, non, ça, c'est un peu une illusion.
Vous écoutez France Inter et vous faites bien. Dans quelques instants, Benjamin Tranier viendra m'expliquer pourquoi il a refusé de me dire où il était parti en vacances, sachant qu'il vient d'enchaîner Croatie, Bora Bora et qu'il va partir au Japon cet été. Je pense comprendre d'où vient sa honte, mais nous lui donnerons l'occasion de s'exprimer. Avant cela, je me tourne vers celle qui est désormais persona non grata chez tous les loueurs de voitures. Hertz, Avis, Europcar, Sixt. Plus personne n'acceptera de lui louer un véhicule et pour cause, il lui a suffi de 2 heures de lock pour transformer un Renault Captur en Renault Rature. Manon, heureusement, vous êtes là. Non, rayure, elle est pas mal celle-ci aussi, Quentin. Quand on se met ensemble pour collaborer sur la base, on atteint, on frise l'excellence.
Ça va, je vous dérange pas.
Manon, pardon. C'est l'heure de votre veille sanitaire. Et aujourd'hui, c'est une tendance assez inattendue qui a attiré votre attention sur les réseaux.
Un couple de Français sur deux en fait les frais, le divorce. Et oui, contre toute attente, le fait de divorcer est en train de prendre une nouvelle tournure grâce ou à cause des réseaux sociaux. Je dis contre toute attente car en général, c'est plutôt le couple qui a le vent en poupe sur TikTok et Instagram. Montrer son mariage, sa demande en mariage, ses enfants, c'est devenu la norme, notamment chez certains influenceurs aux millions d'abonnés qui font de leur couple un business. Mais désormais, il n'y a pas que l'union et l'amour qui font rêver, car le divorce est en train de se banaliser sur les réseaux, notamment sur TikTok.
J'ai demandé le divorce à 28 ans quand je suis rentrée d'une mission à l'étranger. Je suis allée à Paris, j'avais tout mis, toutes mes affaires dans une petite Fiat Punto, et puis je suis allée dormir chez des potes, le temps de retrouver un appart, retrouver un travail, etc.
Voilà, là par exemple, vous entendez une TikTokeuse qui raconte l'histoire de son divorce face caméra, aidée comme elle, il y en a absolument des milliers, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Dans les commentaires, beaucoup partagent aussi leur histoire ou demandent des conseils. Certains font même des tutos pour expliquer les procédures à suivre. Le divorce n'est plus du tout tabou, au contraire, il passionne les foules.
Moi, je comprends pas très bien pourquoi.
Et bien, comme d'habitude, sur TikTok, c'est un mélange de voyeurisme et d'intimité qui fait des vues. C'est toujours un combo gagnant, mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que cette tendance prend totalement le contre-pied des influenceurs qui n'exposent que leur vie parfaite. Là, les TikTokers se livrent sans mise en scène élaborée, en y mettant leurs sentiments et en exposant leurs histoires pas forcément très très joyeuses. C'est un peu « c'est mon choix » version 2024. Sauf que Evelyne Thomas a été remplacée par des ambassadrices du divorce un peu différentes. La première est bien connue de notre rédacteur en chef puisqu'elle s'appelle Émilie Ratajowski, a.k.a. Mrata sur Instagram. En mars dernier, elle a publié une photo likée plus d'un million de fois où elle montre fièrement ce qu'elle a appelé sa « divorce ring », sa bague de divorce. En gros, elle a récupéré les diamants de sa bague de fiançailles pour en faire 2 nouvelles bagues qui célèbrent donc son divorce. Dans les commentaires, beaucoup remercient la mannequin de dédramatiser le divorce et d'en faire aussi une force. Elle est devenue une sorte d'icône de la séparation. Elle dit qu'elle adore l'idée que ses bagues représentent les multiples vies qu'une femme peut avoir. C'est aussi un petit doigt d'honneur à son ex-mari, un producteur américain qui l'aurait trompée à plusieurs reprises, d'où le divorce.
C'est plus des revanches en fait.
Alors on peut le voir comme ça évidemment, mais je pense que ce sont plus des célébrations. D'ailleurs, la photo de Mrata a une résonance particulière puisque plusieurs marques se sont mises à vendre des divorce rings, forcément. Et puis, Mrata n'est pas la seule personnalité à normaliser les séparations. L'actrice Cameron Diaz le fait aussi, alors d'une façon un peu différente, puisqu'elle a propulsé un concept qui cartonne sur les réseaux, le slip divorce. Alors là, il n'est pas question de mettre fin à une union, mais plutôt de mettre en place une solution pour la sauver, faire chambre à part.
More and more people are undergoing what's called a sleep divorce. Now, what exactly is that? That's when partners choose to sleep in separate beds at night.
Vous l'entendez sur TikTok.
Mais maintenant, tout le monde fait ça, c'est parce que vous êtes en couple depuis très récemment. Mais oui, c'est la clé.
Ouais, d'accord, ok. J'ai peur.
Moi non plus, je suis pas sûre.
Vous l'entendez donc sur TikTok, des milliers de personnes parlent de cette tendance du sleep divorce. Certains disent que ça a eu des bénéfices énormes sur leur couple et aussi sur leur sommeil. Manifestement, c'est votre cas, Mathieu. Les vidéos qui en parlent cumulent des millions de vues et les recherches sur Google concernant ce sleep divorce ont augmenté de 50% ces 2 derniers mois. Alors, je sais, il n'y a rien de révolutionnaire ni
mis de nouveau derrière tout ça, c'est juste qu'on a mis un nom dessus pour en faire une énième tendance. Mais je trouve que normaliser les séparations sur les réseaux, ça change la donne, ça véhicule un autre message, peut-être plus réaliste, plus en phase avec la vraie vie. D'autant plus que pour certaines femmes, c'est aussi un synonyme de liberté et de la fin d'une emprise. Et puis, je vous avais déjà dit dans une précédente VS que je n'en pouvais plus des couples qui romantisaient chaque aspect de leur vie pour faire des vues. Et bien là, c'est une parfaite réponse à tout ça. Divorce is the new cool.
Merci Manon Mariani. Dans un instant, Benjamin Tranier et son ami Le Beauf viendront nous parler culture. Accrochez-vous. Avant ce bouquet final, une dernière pause musicale. Voici Laurent Barden, Tigre d'eau douce et Jeanne Hadid, Meilleur sur Inter.
Je...
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur le concept de démocratisation culturelle, il me semblait judicieux de conclure cette émission avec la tribune d'un spécialiste de la culture, l'un des personnages de Benjamin Tranier, les mieux placés pour en parler, celui qui est à l'origine de toutes les modes, Le Beauf.
Salut les beaufs ! Allez, super l'ambiance, on dirait France Inter toute la journée d'hier. Bon. Et alors, comment ils vont mes protecteurs de la liberté d'expression, mon gréviste là, hein ? Alors, on parle de culture aujourd'hui et on m'accueille pas avec une hola. Des années, je parle de Santiago et de Nuclong et maintenant partout dans Paris, les beaufs, ils s'habillent comment maintenant ? Nuclong et Santiago, comme par hasard. Vous me traitiez de beauf et maintenant vous avez ma dégaine. Alors Noël, toi aussi, t'as écouté mes conseils ? Alors, c'est un grand oui, un grand non, t'aimes bien finalement ? Non mais je veux dire, les tangas pour hommes, ça te plaît ?
Je m'y mets cet été.
Attends pas que les beaufs ils s'y mettent. Hein. Bon, samedi dernier, là, je regardais l'émission de Léa Salamé, là, mais si, quand elle s'appelle celle où il y a Laurent Baffi avec une perruque de vieille qui dit des vannes dans le gradin, là. Mais si, avec un mec un peu prof de pilates, blagueur, qui s'habille comme deux flics à Miami en déplacement au Cap d'Agde, là. Ah, mais il porte des chapelets en 2024 Sexy Phil, qui s'appelle, voilà. Bah, Léa Salamé, dans l'émission, elle disait « Allez voir cette pièce, c'est génial, en plus l'auteur, il boit, il fume, il se pique la verge, il se lave pas, c'est trop cool. » Allez, hop, elle marque un point, go sur billet réduc, go acheter des places pour les cheveux d'Ilgueux, là, de Dimitar Bitmov. Alors, même si j'ai été tenté par le moins 60% pour le spectacle de stand-up, par applaudissement, il y a des coupes dans la salle, bon, bref, je me mets un petit peu chicos, vous me connaissez, parce que quand même, quand on va au théâtre, on s'habille bien, petit jean slim, basket montant, t-shirt colvé rentré dans le slip, ça évite les gouttes au fond du sloggy blanc, mais comme ça, c'est juste le bas du t-shirt qui sent les pâtes au ketchup. Bon, bref. Avant d'arriver au théâtre, dans la rue, je te le dis, mon Mathieu, il y avait un spectacle de rue, mais gratos, comme ça. C'était des comédiens déguisés en néo-nazis qui défilaient dans Paris. Mais ils n'avaient pas des vêtements d'époque, mais donnaient des moyens aux comédiens d'avoir des costumiers, merde. À moins que ce soit une vraie manif néo-nazie autorisée dans Paris, mais je crois pas que quelques mois avant les JO, on dise au reste du monde « Regardez, on a une belle piscine, deux frères geekos champions de ping-pong et des nazis tout neufs. » Eux, c'est sûr, mais c'est sûr qu'ils avaient des prépuces. Bon, bref, là, j'arrive au théâtre, là, je suis le seul à avoir fait un petit effort, les autres, ils sont tous venus déguisés en vieux. Bon, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, la pièce, elle dure 3h30. Pendant 3h30, il y a quelqu'un qui chiale. 3h30 de pleurs, 3h30 de ouin ouin, j'ai pas de copain. Mais c'est une performance artistique de Tendu Pasturo, quoi. Putain, là, la mise en scène, il y avait des ossements partout par terre. J'ai demandé au metteur en scène, ça voulait dire quoi? Et là, il me dit, toi, tu vois ça comment? Alors non, c'était pas Djal. Bref, j'ai dit, bah moi, ce que je pense, bah, c'est un petit peu, tu vois, toutes les âmes qui s'en vont dans une chaussette après 3 visionnages du clip Call on Me, non? Et là, il me dit, ouais, voilà, Isaac, c'est ça. Bon, alors, allez, yes, si c'est ça la culture, d'accord. Moi, je préfère, en vrai, en choisissant la culture, je préfère quand même les spectacles de Jamil Le Schlag, où personne comprend rien, mais on rigole tous parce qu'il a des bras trop longs. Ça touche le sol quand il marche, c'est hilarant. Voilà, je vous donne d'ailleurs l'info, on est exclu, hein, évidemment. Il va refaire des chroniques très bientôt sur Chauvage FM. Allez, je peux lui souhaiter qu'un grand chais, comme on dit, dans ces régions de des zones arides. Allez, salut les beaufs, et surtout, n'oubliez pas, on est tous le beauf de quelqu'un.
Merci Benjamin Tranier, et je me dois, tel Michel Drucker, de saluer mes amis Philippe Cavrivière, évidemment, et Tanguy Pasturo. Merci beaucoup. Pardon.
L'humoriste qui est dans les travaux
de Capelle. Paul de Saint-Sernin.
Paul de Saint-Sernin, voilà, premier vous l'avez mentionné. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Tout à fait, c'est dégueulasse aussi, et je tiens à présenter nos excuses. Merci Benjamin. Merci Jean-Michel Tobelem de nous avoir expliqué la démocratisation culturelle. Je rappelle votre dernier livre, Politique et gestion de la culture, pour en savoir plus. Hein, disponible chez Armand Collin. Merci à tous. Quentin, Manon, Cyril. Manon, vous rentrez comment? Pas en voiture, j'espère.
Non, évidemment que non.
Vous rentrez à pied.
En bus.
En bus, c'est plus sage.
Elle a un chauffeur à Paris.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce meilleur de Zoom Zoom Zen. On se retrouve lundi pour parler de l'open mic. Qu'est-ce que le stand-up a changé dans l'humour français? Est-ce que les scènes ouvertes sont devenues le meilleur moyen de se faire un nom? On vous explique tout avec celui qui vient justement de là. Mais qui? Eh ben, rendez-vous lundi à 16h sur Inter pour savoir. Dans un instant, on retrouve Vincent Josse qui est en balade avec le chanteur et romancier Raphaël.
Pour trouver le bonheur, suivez-moi en Grèce.
Éric Emmanuel Schmitt.
Pour vous, j'ai traversé le temps jusqu'au siècle de Périclès. Ensemble, nous marcherons aux abords du Parthénon flambant neuf. Deviserons avec Socrate en personne et partagerons peut-être même sur l'île de Lesbos le lit de la divine Sappho. Un voyage dans le passé? Non. Un voyage là où tout a commencé. Aux sources de la lumière et du bonheur.
La lumière du bonheur. Le roman événement d'Éric Emmanuel Schmitt. Un livre Albin Michel.
Radio France et la Cinémathèque française présentent Napoléon vu par Abel Gance. Un ciné-concert événement sur écran géant avec 250 musiciens sur scène. L'épopée napoléonienne d'Abel Gance, dévoilée en version intégrale et définitive de 7h en 2 soirées les 4 et 5 juillet à la scène musicale. avec l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France, avec le soutien du CNC.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de pfiou, vraiment trop longtemps. Jusqu'au 27 mai pendant l'opération « C'est nouveau et c'est moins cher », profitez de 15% de réduction sur tous les portails standards et sur mesure. Oui, tous, 15%, même sur les nouveaux modèles de la gamme. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux.